Bonjour, j'ai plaisir à vous accueillir ce matin, ici, à vous saluer chacun, ici à Mérin. Vous vous appelez peut-être Anna, Alexia, Alberto, Brigitte, Clément, Claire, Denis peut-être, Denise, Eric, Francine, ou peut-être que vous vous appelez Georges, Henri, Isaline ou Irène. Peut-être que vous vous appelez Kevin, Carl, Laura, Mireille, Maxime ou Noémie. Peut-être que vous êtes Oscar, peut-être que vous êtes Pauline ou Pearl, Quentin. Peut-être que votre prénom c'est Roger, Suzanne, Théo ou Thierry, Ursula. Peut-être Ursula, Victor, Werner, Xavier. Peut-être que vous appelez Johan, Zena ou Zélie. Vous êtes chacun les bienvenus ce matin à l'église de Mérin. Nous sommes les bienvenus avec nos différences, des différences que nos prénoms illustrent, des histoires personnelles qui se reflètent dans le prénom que nous portons. Par exemple, si comme moi vous vous appelez Michel, il n'y a pas beaucoup de chances que vous ayez le même âge que quelqu'un qui s'appelle Liam, hein ? Mais chacun, avec nos différences, avec nos histoires personnelles, chacun nous sommes les bienvenus ce matin dans ce lieu de culte. L'éternel Dieu que nous voulons célébrer ensemble ce matin, le Créateur de l'univers, celui qui a lancé les galaxies dans l'infini, rien de moins, ce Dieu-là, dit à Israël par la bouche du prophète Esaïe, « Je te connais par ton nom, tu es à moi. » Un Dieu immense, pas un petit Dieu, un Dieu gigantesque, un Dieu qu'on ne peut pas mesurer, incommensurable, un Dieu inconcevable, qui me connaît par mon nom. On retrouve ça dans la bouche de Jésus. « Je suis le berger. » Le bon berger, le berger appelle ses brebis par leur nom, chacune par son nom, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, cette connaissance réciproque qui donne à ma vie, qui donne à nos vies une dimension toute particulière. Nous ne sommes plus perdus dans le temps infini, nous ne sommes plus perdus dans l'espace illimité. Nous sommes reçus, nous sommes connus. Je suis reconnu par Dieu comme une personne avec mon nom et mon histoire. Pour chacun d'entre nous, cette relation, cette proximité avec Dieu, nous pouvons la vivre grâce à Jésus-Christ. Vous connaissez cette histoire au matin de Pâques, l'histoire de Marie de Magdala. Elle est là près du tombeau vide, c'est l'aube. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Rien. Des anges lui parlent, mais ça fait pas tilt. Hein. Des anges lui parlent et elle ne comprend rien. Elle voit Jésus, elle ne le reconnaît pas. Elle croit que c'est le jardinier. Elle ne sait plus où elle en est. C'est pour elle la confusion totale. Elle est complètement perdue. Alors Jésus l'appelle par son nom, Marie, et elle le reconnaît. Et elle répond, « Cher maître ». Et cette femme qui était troublée, cette femme qui était désemparée est rétablie, relevée et devient le premier témoin de la résurrection. Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous connaît, c'est Dieu qui nous accueille avec nos personnes complexes, perdues parfois, troublées. C'est Dieu qui nous connaît, qui nous accueille et qui nous relève et qui nous envoie porteur de la bonne nouvelle. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu, nous nous présentons devant toi avec respect, parce que tu es le Créateur et tu es grand au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous nous présentons, Seigneur Dieu, devant toi avec confiance à cause de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Il nous a appris ton nom, Abba, Père, et Père, comme tu l'as promis, accorde-nous ce matin ta présence. Accorde-nous ton esprit pour que nos cœurs, nos intelligences et nos mains puissent recevoir la parole de vie que tu nous adresses ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Bonjour, je m'appelle David, mais il y a un autre David, un roi, il y a très longtemps, qui a dit ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond.
Ce jour, ce qui nous a j'attends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix étant cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie. Tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas abandonner ma vie? Alléluia, alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, alléluia.
Notre manière de louer Dieu, c'est aussi par la prière. Jésus a enseigné à ses disciples une prière que parfois nous citons souvent, le Notre Père. Une prière qui reconnaît que c'est son nom qu'on veut louer, c'est son nom qui est saint. On va aussi invoquer son règne pour venir dans notre vie, que sa volonté soit faite aussi dans notre milieu, dans notre vie de tous les jours. Je propose qu'on va chanter cette prière, Notre Père qui es aux cieux.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour qui tu es. Merci que tu es le Dieu créateur. Merci que tu es aussi notre Père. Tu nous as tant aimés que tu as envoyé ton Fils pour mourir à notre place parce que tu nous as tant aimés. Merci pour le privilège que nous avons ce matin de pouvoir entrer dans ta présence, toi qui nous invites, toi qui ouvres le chemin grâce à ton pardon, grâce à ton sang, ton corps qui t'est donné pour nous. Merci pour cette liberté que nous avons de te louer parce que tu nous as tant aimés. Amen. Aujourd'hui, c'est le 17 mars, c'est les jours après le 16. Le 17 mars, c'est le jour où, en Irlande, on pense à Saint-Patrick. Normalement, on gagne aussi le rugby juste avant, mais là, cette fois, on n'a pas fait ça. Saint-Patrick, c'était un Gallois, ou Anglais, on n'est pas trop sûr, qui est venu en tant qu'esclave, qui s'est échappé donc d'Irlande, et qui, après être devenu prêtre, il est revenu en Irlande pour justement être missionnaire, pour enseigner les gens sur qui est Jésus. Souvent, on le cite pour un hymne qu'il a écrit. Il est connu pour ses paroles. Que le Christ me protège aujourd'hui contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre la blessure, pour qu'il me vienne une foule de récompenses. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur, le Christ en hauteur, le Christ dans le cœur. De tout homme qui pense à moi, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Quelques siècles plus tard, ça c'était, on pense, vers le 5e siècle, dans le 6e au 7e, on a écrit les paroles que nous allons chanter maintenant à notre prière d'Irlande. En anglais, Be thou my vision, que mes regards, sauveur au maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Nous allons le jouer une fois pour que vous puissiez entendre la mélodie. C'est peut-être déjà connu. Et puis après, on le chanterait. Thank you.
Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père. Puisque être fils de Dieu m'est si cher, que rien sur terre, que nul ici-bas, n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur la lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour.
Amen. Vous pouvez vous asseoir et c'est aussi le moment pour les enfants de nous quitter pour aller à l'école du dimanche. Soyez bénis là où vous allez. Et puis j'invite Santosh à venir nous partager la parole.
Voilà, bonjour à tous. Je suis encore à lapsus. Alors, pour vous réveiller, pour me réveiller, on va mettre... Alors, je voudrais savoir qui c'est qui a entre 0 et 25 ans. Levez les mains un petit peu plus... 0, 25 ans, d'accord. Alors maintenant, c'est un quiz que pour vous, pour l'instant. Alors, non, mais Anne, t'as quel âge?
Non,
j'ai 20. Ah, voilà, alors tu peux. Alors, ceux qui ont entre 0 et 25 ans, qui c'est qui peut dire à quoi ça correspond? Qui sont ces personnages, cette poignée de main de la réconciliation? Mais je veux pas que les autres soufflent. J'entends que Anne souffle tout le temps. 0, 25 ans. Lionel, Lauriane, ça vous dit quelque chose? En tout cas, c'est sûr, vous n'étiez pas encore né. 0, 25 ans. Mes enfants. Bon, alors on met 0, 30 ans. 0, 30 ans. Toujours pas. Ah, il y a qui? Ah oui, alors, tu veux te lever?
J'ai pas entendu.
Je pense qu'il y a un président.
Oui,
très bien. Qui est le président qui est au milieu? Alors, 0,30 ans. Qui est le président qui est au milieu? Oui, c'est juste. Jimmy Carter, qui était le président des États-Unis à cette époque. Bravo. Qui est à sa droite? Ici, c'est pas moi. Même sans lunettes. Alors, 0,40 ans. J'ai entendu? C'est juste. El Sadat, qui était? Égyptien, bravo. Et à gauche, à sa gauche? 0,40 ans, allez maintenant, 0,90 ans. Juste, qui était? Premier ministre israélien. En quelle année, 0,90 ans? En quelle année est-ce que c'était, cette poignée de main? Ah, pas mal, 77, presque. 78, c'est juste. 17 septembre 78, et ça c'est les accords de où? Non, pas de Camp David, exactement. Camp David. Encore un David. 1978, la réconciliation entre Israël et l'Égypte. 1978 à Camp David. Toujours 0,30 ans. Non, oui, mais on va, parce que sinon on va pas s'en sortir. 0,30 ans. Qui sont ces personnages? 0,30 ans. Alors, on va diversifier un peu. Les enseignants qui sont dans cette salle, en tout cas, je sais qu'il y en a une. Qui se cache? Bravo. En quelle année? Un peu avant? 84. Et puis, c'était où? J'ai entendu quelqu'un qui a dit? Exactement, bravo. C'était la poignée, c'est donc le signe de la réconciliation, les 70 ans, la célébration de la Première Guerre mondiale entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Il y a des rugbymen, rugbywomen dans cette église, je sais. Ça, c'est tout âge est possible. Mandela et... Bon, moi non plus, je ne le connais pas, mais qui a donné un film. Des... Voilà. Sud-africaines, les Springboks. Et en quelle année? Il y a quelque temps, en 1995, champion du monde, c'est le championnat du monde de rugby où l'Afrique du Sud gagne, et c'était cette année où Mandela était président de l'Afrique du Sud et qui était vraiment le symbole de la réconciliation entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud. David, tu vas nous aider. Plus difficile. Irlande. Mais toi, tu n'as pas le droit de souffler. Mais t'as pas le droit de souffler quand même. Alors, Xavier? Ah ben, Xavier Schmitt, évidemment. Dans quelle région? Oui, mais dites un peu plus. Voilà. Exactement. Irlande du Nord, donc c'est la période... moi je ne connais pas très bien cette période, mais dans les années 60, il y a la guerre civile en Irlande du Nord. Et puis en 1998, le début du processus de paix qui est symbolisé par cette fresque. Plus récent, ça c'est maintenant les tout récents, les 0,10 ans, 0,20 ans. L'année passée, avril 2018. Voilà. Et puis l'autre? Moon Jae-in, la première fois qu'un Coréen du Nord, enfin qu'une autorité de la Corée du Nord allait en Corée du Sud, là, cette poignée de main qui est bien connue. Et maintenant, ça, c'est les 0 à 600 ans. Rembrandt, en quelle année, Alex? Ça, c'est plus dur, hein? À peu près. 1668. Et ce tableau se trouve où? Non, à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Voilà, j'étais sûr que ça vous manquait ce quiz. Donc en novembre, je vous ai partagé le thème de la réconciliation. Et aujourd'hui, je vais continuer cette deuxième partie sur la réconciliation. En novembre, je vous avais parlé de la réconciliation entre Dieu et les hommes, et aussi l'homme avec soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la réconciliation entre les hommes. C'est pour ça que j'ai utilisé ces images. En effet, il y a trois types de réconciliation en fonction aussi des commandements que Dieu nous a donnés. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aussi le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va entendre trois textes bibliques, trois versets sur ce thème que Hélène va lire. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Puis dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos fautes. » Et puis Matthieu 5, 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. »
Le pardon est la condition pour la réconciliation. La réconciliation avec Dieu est le cœur de l'Évangile et sera aussi à la base de notre vie personnelle, mais aussi notre vie relationnelle. Nous aimons Dieu car Dieu nous a aimés en premier. Nous pardonnons car Dieu nous a pardonnés en premier. Et nous sommes appelés à la réconciliation avec nos prochains car nous avons été réconciliés avec lui par la mort de Jésus à la croix. On peut dire que l'Église est le peuple de réconciliés. L'Église est le peuple de réconciliés. Malheureusement, ça ne se voit pas toujours en pratique parce que le royaume de Dieu n'est pas encore totalement accompli, mais c'est une réalité spirituelle. L'Église est le peuple de réconciliés. Un petit rappel sur la notion du pardon, parce que sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. Pourquoi est-ce qu'on doit pardonner ? On doit pardonner parce que Dieu nous a pardonné. C'est la conséquence du pardon que nous avons reçu. Parce que Dieu nous le demande, c'est une obéissance à Dieu. C'est pour ça que nous devons pardonner. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Parce que pardonner, c'est une puissance qui nous libère intérieurement. Rappelez-vous du témoignage d'Alex, il y a quelques semaines. Parce que pardonner nous rapproche de Dieu. Parce que pardonner libère vraiment nos prières. Et finalement, parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Même si le pardon ne doit pas être le but ultime, le pardon est une entité en soi, mais le pardon est indispensable pour la réconciliation. Toutefois, ce sont deux entités quand même différentes. Encore, il faut rappeler que pardonner n'est pas un sentiment ni un pouvoir. Le pardon est du domaine de la volonté et donc du vouloir, même si ce vouloir est enfermé dans une blessure, dans de la colère, dans l'amertume. Dans le pardon, Il y a l'offenseur et l'offensé. Il y a l'offenseur et l'offensé. Mais en pratique, moi je ne sais pas comment c'est avec vous, avec les histoires que vous avez eues, je trouve qu'il y a souvent un mélange des deux. On a été offensé et on offense à notre tour. Alors qui doit pardonner en premier? Qui doit demander pardon? Dans le milieu évangélique, en tout cas, dans la théologie du pardon, il y a deux courants. Quand on est offenseur, tout le monde s'accorde pour dire que c'est celui qui a fait l'offense qui doit demander pardon à l'offensé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, là où il y a une divergence, c'est si nous sommes offensés, si nous avons été offensés, certains pensent qu'on doit accorder notre pardon uniquement si l'offenseur nous demande pardon. Uniquement si on nous demande pardon, nous sommes appelés à pardonner. D'autres personnes pensent que même si l'offensé n'est pas reconnu dans son tort, que l'offenseur ne demande pas pardon, l'offensé devrait proactivement accorder son pardon dans la prière, avec Dieu comme témoin et comme aide. Personnellement, je suis vraiment du deuxième avis, pour diverses raisons. Tout d'abord bibliquement, mais aussi sur plan pastoral. Sur plan biblique, on l'a chanté, « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je ne vois aucune condition. Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Je ne vois pas de condition. Jésus dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » J'ai de la peine à pouvoir aimer mon ennemi sans que je l'ai pardonné. Et sur le plan pastoral, d'une part, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est difficile parce que la frontière entre l'offenseur et l'offensé n'est pas aussi facile à déterminer. Je crois que la frontière est assez floue. C'est tellement évident dans les conflits de couple. Quand on entend A, on a l'impression, mais c'est sûr, c'est B qui a fait tout faux. Et quand tout d'un coup on entend B, on se dit, mais tiens, la vérité, elle est pas si évidente. D'autre part, j'ai vu, et je pense que vous avez aussi pu expérimenter cela, voir aussi, j'ai vu trop de vies qui ont dépéri sous l'amertume et le non-pardon, parce qu'ils attendent encore que l'offenseur leur demande pardon. J'ai également vu des vies transformées par un pardon proactivement accordé. Mais ceci se passe toujours avec l'aide de Dieu dans la prière, comme Dieu témoin de notre prière et de notre engagement, mais que cela doit aussi passer par moments, par un tiers, pour nous aider à traverser cette épreuve. Pourquoi est-ce qu'il y a deux compréhensions théologiques différentes? Quand j'ai lu différents auteurs, des personnes tout à fait remarquables dans le milieu évangélique, avoir des positions assez différentes, il me semble qu'une des réponses, c'est que pour ceux qui pensent qu'il faut qu'on demande pardon pour accorder ce pardon, se base sur le fait que le pardon est une décision relationnelle. Et ils mettent beaucoup l'accent sur cette décision relationnelle. Ce qui est évident, le pardon est une démarche relationnelle. Mais personnellement, je pense pour nous chrétiens, c'est une démarche prioritairement spirituelle. Le pardon est une décision spirituelle et ensuite relationnelle. En ce qui concerne la réconciliation et dans la mesure du possible, une fois que le pardon est partagé, Dieu vise vraiment la réconciliation, même si clairement il y a des situations qui ne permettent pas à ce que la réconciliation soit présente. Je crois que ça peut être présent dans l'Église comme dans nos familles. Malheureusement, il y a des situations qui ne permettent pas que la réconciliation soit là. Mais j'aime quand même le répéter, on ne doit pas se cacher sur des exceptions pour ne pas faire la démarche de la réconciliation. et de se contenter juste, entre guillemets, du pardon. Parce que Dieu est un Dieu de la réconciliation et nous demande cette démarche de réconciliation. La réconciliation est donc l'ultime bénédiction qui succède au pardon. Le verbe « réconcilier » qui vient donc du terme grec « katalasso » qui veut dire « changer à l'égard de quelqu'un » et le mot français qui vient du latin « réconciliatio », je ne sais pas si on prononce comme ça, est l'idée de la réintégration, l'idée de raccommoder et l'idée aussi de retisser les liens. J'aime bien ce terme « retisser les liens ». Les relations valent toujours la peine d'être restaurées. L'objectif de notre vie est d'apprendre à mieux aimer Dieu et notre prochain. Ainsi, Dieu nous appelle en priorité à retisser les liens, à ne pas laisser tomber la relation dès qu'il y a un problème, un conflit ou une blessure. Avec le temps, je me rends compte que l'Évangile est très exigeant. Il nous demande, il nous bouscule. Il nous demande des changements dans notre cœur et dans notre attitude. Mais je pense que Dieu sait ce qui est bon pour les hommes, pour ses enfants, et que l'Évangile est en effet exigeant, mais heureusement, Dieu nous accompagne. L'amour suscite la volonté de dépasser les conflits, empêche de s'installer dans les rancunes, et nous presse. Matthieu 5 va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est un acte spirituel et pas corrélationnel. Ce verset, dans Matthieu, suit les béatitudes, c'est Jésus et la loi. Comment est-ce que Jésus nous invite à revisiter la loi de l'Ancien Testament ? Ici, entre autres, Jésus fait allusion à Nombre, les chapitres 28 à 30, où il est mentionné que le jour du sabbat, il fallait offrir en sacrifice deux agneaux sans défaut, et aussi présenter en offrande un gâteau. Ce matin, nous venons au culte présenter notre offrande de notre personne, de notre argent, de nos prières, de notre louange, de notre reconnaissance. On vient au culte, mais aussi nous allons partager le pain et le vin. Et Dieu nous appelle à cette conscience urgente, relationnelle, qui est le pardon et la réconciliation. Je pense que Dieu est exigeant et qu'il travaille dans nos cœurs par son esprit. Des fois, je pense que vous avez vécu cela aussi, c'est que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et que ce n'est pas simple et qu'on voudrait, et même durant les cultes et avant de prendre la Sainte Cène, on voudrait que Dieu ne nous presse pas trop. Et pourtant, il nous travaille parce qu'il nous aime. Et je pense que cette urgence relationnelle du pardon et de la réconciliation commence premièrement dans nos familles humaines. Car c'est là que notre personnalité s'est construite, que nos loyautés familiales se sont développées et que nos racines se sont tissées. Le processus de réconciliation commence d'abord dans nos familles. Que ce soit avec nos propres parents, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos beaux-parents, nos oncles, tantes, etc. En tant que thérapeute de famille, j'ai vu beaucoup de vies qui ont été brisées avec des ruptures complètes de contact. On appelle ça des cut-off. Des trahisons et des blessures qu'ils ont séparées dans la vie de famille. Pas de pardon et donc pas désir de réconciliation. Des parents qui ne voient plus leur enfant, ou des jeunes adultes qui ne voient plus leur père, leur mère. Des couples brisés par un manque de pardon ou par un refus de réconciliation. Sans excuses sincères, les relations brisées vont rester brisées. Ensuite vient la réalité de la famille de Dieu, des relations entre frères et sœurs spirituelles. Et donc cela concerne notre Église en premier. Mais peut-être aussi l'église où vous étiez avant de venir à celle-ci. On sait que ça tourne beaucoup à Genève. On part d'une église parce qu'on a été blessé et on va s'installer dans une autre église. Mais peut-être que les choses n'ont pas été réglées. Des anciens amis qui étaient engagés dans une église qui ont œuvré pour le royaume de Dieu pendant des années et des années, tout d'un coup ne se parlent plus. Des parents spirituels qui ne parlent plus à leurs enfants, et les enfants spirituels qui ne parlent plus à leurs parents spirituels. Quelle tristesse! Ça peut être donc dans notre famille, dans l'église. Ça peut être aussi dans notre lieu de travail. N'oublions pas que nous passons plus de temps dans notre lieu de travail que des fois en famille ou à l'église. Je ne sais pas ce matin quelle est votre réalité quand je vous parle de la réconciliation. À quoi est-ce que ça leur résonne dans votre vie? Mais je suis convaincu que certains d'entre vous, Dieu vous appelle ce matin à faire une démarche de pardon et de réconciliation. Je suis aussi convaincu que grâce à Dieu, par la grâce vraiment de Dieu, par sa victoire à la croix de Jésus, nous pouvons passer par des temps de crise dans nos couples, dans nos relations, dans nos églises, dans nos familles, et que Dieu peut utiliser ces moments pour triompher, pour permettre justement à ce que ces relations puissent se retisser finalement. Cela peut passer par des tiers aidants, que ce soit des amis, que ce soit notre pasteur, nos pasteurs, des anciens. Ça peut être aussi des professionnels. Mais je suis convaincu que ces moments de crise peuvent être vraiment utilisés pour la gloire de Dieu. En pratique pour ce matin, si vous êtes dans la position de l'offenseur, cela vous demandera beaucoup de courage de présenter vos excuses à l'offensé. Mais ce sera le signe que vous désirez qu'une page se tourne, qu'une réconciliation soit possible. Mais c'est évidemment un risque que l'offensé refuse de vous accorder son pardon et donc la réconciliation. Ce sera peut-être blessant, voire humiliant, mais ce sera le prix de la réconciliation. Et ce prix en vaut vraiment la peine de l'essayer. Si vous êtes l'offensé, cela vous demandera aussi beaucoup de force pour accorder votre pardon, d'autant plus si les offenses ont été à répétition, datent de plusieurs années, avec des conséquences importantes dans votre vie relationnelle. Cela va donc impliquer que vous ne cherchez plus à vous venger. Ce pardon pourra aussi ouvrir à une réconciliation, mais cela pourra prendre aussi du temps. La réconciliation doit prendre du temps, parce qu'il faut que la confiance puisse se retisser entre les personnes. Rappelez-vous ce matin que les situations ne seront pas si noires et si blanches. Il n'y a pas toujours l'offenseur et l'offensé. Vous n'êtes pas toujours que offensé, vous êtes peut-être aussi un peu offenseur. Et quand les deux personnes sont convaincues d'être que les offensés, ils attendent le pas de l'autre. Alors ce matin, soyez le plus courageux et prenez cette décision de prendre le chemin de la réconciliation. Il faut que le temps nous aide à nous réconcilier et Dieu va nous aider. Je voudrais vous lire un petit témoignage d'un processus de réconciliation, je dirais extrême. Extrême parce que c'est une des situations les plus difficiles qu'on peut vivre, que certaines personnes peuvent vivre dans une famille qui est un abus. Je pensais que c'était un exemple qui peut nous permettre de dire qu'on peut vraiment dépasser même certaines choses qui sont très difficiles. C'est tiré d'un livre de Gary Chapman, qui est un médiateur, et le livre, c'est « Les langages de la réconciliation ». Je me souviens de l'histoire de Camille, que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur le mariage. Elle avait été abusée par son père, et cela avait sérieusement affecté ses relations sexuelles avec son mari. Cédant aux instances de ce dernier, elle est allée voir un conseiller et avait été rapidement éclairée sur les causes de son problème. Elle décida alors d'affronter son père et de faire table rase de ce qui avait eu lieu si longtemps auparavant. Elle savait qu'elle n'était pas à l'origine du problème, mais elle savait aussi que pendant de nombreuses années, elle avait laissé l'amertume et la colère l'empêcher de chercher à se réconcilier avec ses parents. Elle ne les avait pas vus depuis très longtemps. Avec l'aide de son conseiller et le soutien de son mari, Camille appela ses parents et leur demanda si elle pouvait aller les voir. Ils acceptèrent. Camille a raconté qu'il s'agissait du voyage le plus long qu'elle ait jamais fait et de la conversation la plus difficile qu'elle n'ait jamais tenue. Camille s'est souvenue de ce qu'elle avait dit. « Je suis venue pour m'excuser d'avoir permis à la colère, à l'amertume et au ressentiment de m'avoir maintenue à l'écart de vous pendant tout ce temps. Je sais que j'ai eu tort d'agir ainsi. Je suis profondément désolée que nous ayons perdu toutes ces années. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour réparer ma faute, mais je suis disposée à essayer. J'aimerais que l'avenir soit différent et je suis venue vous demander de bien vouloir me pardonner. » Après cette déclaration, ses parents étaient tous les deux en larmes. Ma mère m'a serré dans ses bras en premier, puis mon père en a fait autant en disant « Oui, oui ». Mais je n'étais pas préparée à ce qu'il allait suivre. Mon père m'a dit, les larmes dans les yeux, « Je veux te pardonner, mais tout d'abord, il y a beaucoup de choses que je voudrais te demander pardon. Je sais que ce que je t'ai fait était mal. Je n'ai jamais rien révélé à ta mère, mais je pense que c'est le moment pour elle de savoir que j'ai horriblement abusé de toi. Depuis, j'ai demandé à Dieu de me pardonner à plusieurs reprises et j'ai versé bien des larmes. J'espère que ta mère pourra me pardonner également. » J'ai embrassé mon père et je lui ai dit « Je te pardonne ». Ma mère a regardé mon père et elle a déclaré « Quand je pense que c'est à cause de toi que je n'ai plus vu ma fille pendant toutes ces années, je ne suis pas sûre de pouvoir te pardonner. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à parler et à pleurer ensemble. J'ai encouragé mes parents à voir un professionnel. Ce fut le début d'un parcours de guérison pour nous tous. Je suis convaincu, dit l'auteur, que le père de Camille devait lui demander pardon pour la chose horrible dont il s'était rendu coupable. Sa fille n'a fait qu'ouvrir la porte en s'excusant de ses propres fautes. C'est la seule chose que nous puissions faire dans une situation semblable. Il faut beaucoup de courage pour entrer dans une démarche de réconciliation quand on a été brisé par la personne ou par les personnes qui devaient nous protéger. Mais c'est une source de libération quand on peut pardonner et qu'on peut ouvrir un chemin de la réconciliation, d'autant plus quand c'est dans notre famille. Ce matin, si vous vous sentez concerné par ce pardon et la réconciliation, je vous encouragerai, pas comme une recette évidemment de cuisine, mais aussi comme quelque chose que vous pouvez prendre en vous, c'est que avant de parler à cette personne que Dieu a peut-être mis dans votre cœur ce matin, c'est d'en parler d'abord à Dieu pour qu'il puisse vous éclairer. Prenez le temps de recevoir de Dieu ce qu'il veut vous dire. Ayez de la compassion pour cette personne. Demandez à Dieu vraiment qu'il vous donne son amour, parce que c'est une démarche qui nécessite vraiment de l'amour et de la maîtrise de soi. Prenez toujours l'initiative. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Soyez les plus courageux. Admettez votre part de responsabilité. Concentrez-vous sur le pardon qui pourra peut-être aboutir à la réconciliation. Et concentrez-vous sur la relation. Concentrez-vous sur la relation à tisser plutôt que d'essayer de régler à tout prix le problème qui vous a séparé. Pour terminer ce message, je vous encourage à vivre ce matin dans l'ici et le maintenant de ce que Dieu vous demande ce matin pour ce culte. Avec Michel, nous allons après présenter le pain et le vin, nous préparer pour la Sainte Cène. Mais ce matin, si vous entendez la voix de Dieu, je vous encourage à ne pas endurcir votre cœur, mais de prendre votre courage à deux mains. Vous pensez à une situation ou vous pensez à une personne? Est-ce que vous désirez rester dans cette guerre froide ou vous désirez que les relations se réchauffent? Je suis un fervent défenseur que notre culte et que notre Sainte Cène soit aussi un rite au sens noble du terme, le rite de la réconciliation. Nous prenons le pain et le vin dans une perspective de remise en question devant Dieu et devant notre conscience. Nous devons des fois confesser des péchés. Nous devons demander pardon à une personne ou lui accorder une personne ou nous réconcilier. Et cette table qui est là ce matin, c'est une invitation que Dieu vous fait pour ce chemin. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Que notre Dieu vienne à notre aide pour faire cette démarche, car nous avons tellement besoin de lui. Mais nous serons tellement bénis. Amen. Seigneur Jésus, je te demande ce matin que ton esprit nous apaise, nous éclaire, mais nous travaille aussi si c'est dans ta volonté. Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses être avec nous, de nous donner cette conviction que nous sommes réconciliés avec toi par la croix de Jésus et avec nous-mêmes, par l'amour de Jésus qui transforme notre regard vis-à-vis de nous-mêmes. Mais ce matin, je te demande aussi que si nous avons des étapes à faire vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, aide-nous à pouvoir marcher sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Je vous invite à avoir un temps de prière maintenant, que ce soit dans votre cœur ou à haute voix, Dieu vous entend, que ce temps soit votre temps de rencontre avec Jésus.
Exemple, Seigneur, de celui qui a pardonné même à ses bourreaux, Seigneur, qui t'ont fait les pires des choses, que cet exemple puisse nous servir aussi dans nos vies pour accorder le pardon que nous n'avons pas encore fait. Seigneur, merci encore, parce qu'avec ton aide, avec ta parole, tes paroles, nous pouvons le faire.
Nous pouvons rester dans ce temps avec Dieu. Nous allons écouter un morceau musical que David va nous jouer. Nous allons prendre maintenant la Sainte Cène dans ce climat de reconnaissance, de pardon et de réconciliation, en se basant aussi sur ce verset dans Matthieu 5, les versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si vous vous sentez concerné par ce verset, ayez la liberté de ne pas prendre le pain et le vin avant de vous réconcilier avec la personne que Dieu vous a mis à cœur ce matin. Mais également, vous pouvez prendre cette Sainte Cène, tout en ayant pris dans votre cœur, avant de la prendre, la ferme décision de faire une démarche de pardon et de réconciliation, afin que vous puissiez aussi bénéficier de ce pain, de ce vin, de ce souvenir que Jésus a tout accompli à la croix. Pas de pression. Dieu est avec nous. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous accompagne pour cette Sainte Cène également. Amen.
Pendant le repas de la Pâque, pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez et mangez, ceci c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il leur la donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous te remercions, Seigneur, pour le pain et le vin. Nous te remercions pour le sang versé, le corps brisé de Jésus-Christ, garantie de l'alliance, garantie de ton pardon. Nous te remercions pour le concret du pain et du vin qui nourrissent nos corps. Que ta vie, Seigneur, nourrisse nos vies. Amen. Merci Seigneur pour le partage du pain et du vin. Que durant cette semaine, ce pain et ce vin nourrissent notre recherche de ta volonté au cœur de notre vie. Amen. Voilà, nous arrivons maintenant au temps de l'offrande. Et nous allons, pendant le temps de l'offrande, avoir le temps des annonces. Parce que finalement, les deux choses sont assez liées. Les annonces nous donnent des éléments, un aperçu de la vie de l'Église, et la vie de l'Église, elle a besoin de l'offrande. Pour être possible, simplement. C'est en quelque sorte les annonces et l'offrande, les deux faces de la même pièce.
Alors, pour les annonces, donc tout à l'heure, après le repas canadien, nous avons le colloque de printemps à 14h15. Ensuite, mardi à 20h15, les ateliers bibliques continuent avec comment approcher l'apocalyptique biblique. Le rappel pour mercredi 27 mars dès 19h30, venez au CTT, venez découvrir les jeunes, ceux qui vivent dans leur local au prix inférieur. Donc vous êtes tous invités le 27 mars. Du 2 au 6 avril, donc les travaux commencent pour la chapelle. Il y a encore besoin de bras pour cette semaine, donc vous pouvez vous adresser à Paul Robert pour donner un coup de main. Ensuite, quelques camps de la Ligue pour cet été. Et puis, encore deux petits points. Les flyers pour le fil d'argent sont prêts, sauf erreur. Pour la journée du 9 avril. Ils sont à l'extérieur ? Oui, c'est bon, ok. Et puis, il y a toujours les objets trouvés qui cherchent leur propriétaire. Donc, si vous avez perdu quelque chose, par contre, je ne sais pas où sont. Dans le coffre, voilà. Super, merci.
Merci beaucoup. L'appel aux hommes. Mais les femmes aussi, parce que c'est la journée masculine, le 30 avril à Yverdon, à l'église de l'Escale. Mais mesdames, j'ai dit 30 mars, oui, pardon, excusez-moi, oui, il n'y aurait personne. Donc j'appelle les femmes, parce que vous aurez l'intérêt à ce que vos hommes partent ces jours-là, vous aurez congé, mesdames. Le sujet, c'est un style de vie qui impacte. Ça devrait vous donner de l'eau à la bouche parce qu'il y a l'aumônier des Giants de New York, le footballeur, qui va venir comme conférencier principal. Et je vous invite tous les hommes, à venir. Nous allons nous grouper sur le parking de l'église pour remplir les voitures à peu près aux alentours de 8 heures. Donc, je vous donne rendez-vous le 30 mars, je souligne encore une fois, devant l'église ou plutôt derrière l'église. Merci de votre attention.
Voilà, nous allons terminer ce culte. Je vous propose de vous lever pour la bénédiction. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans quelques semaines, c'est Vendredi Saint, c'est le dimanche de Pâques, c'est vraiment la célébration de la réconciliation. Soyez bénis aujourd'hui, toute cette semaine. Amen.